bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir pour cette session rendre visibles les discriminations et les rapports sociaux. Je remercie les organisateurs et les organisatrices de m'avoir proposé d'animer cette session. Du coup, pour vous annoncer que Pascale Tisserand ne sera pas présente, du coup, il n'y aura que deux interventions qui vont durer une vingtaine de minutes, ce qui nous laissera 20 minutes pour de discussion à la fin de vos deux interventions. Donc, je vais passer la parole à Joëlle Maga-Bronner, qui est doctorante en sociologie et études de genre, chercheur associé au Réseau québécois en études féministes et cofondatrice du collectif Les Mécaniciennes de Montréal.
Bonjour. Alors, je me propose de vous livrer les quelques résultats d'une recherche qui a été menée entre 2013 et 2016 dans des établissements scolaires français et des établissements scolaires québécois, dont l'objectif est justement de saisir comment circule le pouvoir. Et j'en suis désolée, mais je vais lire un texte de manière à pouvoir faire entrer ce matériel très dense dans le temps qui est alloué. Voilà. Donc, l'une des difficultés qui concerne la mise en évidence des processus discriminatoires dans l'espace scolaire consiste en leur naturalisation, dans la mesure où ils s'enracinent dans un ordre scolaire dont les logiques propres au rapport pédagogique, mais aussi à l'organisation du travail, apparaissent fondées comme en nature et en vérité. De plus, la tension générée sur l'axe du rapport social de race ne se manifeste pas isolément des autres rapports sociaux, en particulier ceux de classe et de sexe. Par conséquent, pour pouvoir observer, rendre compte et analyser de quelle manière l'école participe à la production des inégalités ou au contraire permet de les réduire, il s'agit de se doter d'outils conceptuels et méthodologiques qui permettent d'appréhender à la fois la dynamique des rapports sociaux, leurs mouvements, leurs variations et leur imbrication. Alors à partir de la définition minimaliste du pouvoir qui est élaborée par Foucault et qui consiste à dire que le pouvoir est une action sur une action, je propose d'étudier sa circulation pour repérer qui agit sur quoi, sur qui, à quelle fin et avec quels effets. Et pour répondre au défi de voir ce qui est invisibilisé par la norme et de nommer ce qui va sans dire, l'approche ethnographique se révèle un outil puissant car elle permet l'étude des éléments singuliers en relation avec les systèmes qui les englobent. Elle permet aussi de saisir la matérialité des rapports de pouvoir ainsi que leurs variations, donc selon les contextes. Donc je vais rapporter trois situations de terrain dans lesquelles un processus de racialisation est actif, issu de cette enquête. La première situation est dans un collège français du secondaire qui est implanté dans une ville de taille moyenne et qui n'a aucune particularité. Ce n'est pas un collège REP, ce n'est pas un collège rural, c'est un collège sans particularité. L'échelle d'analyse se situe au niveau des interactions entre élèves et enseignants dans un cours d'anglais. Alors, lors d'une observation de cours, je constate une variante de la mise au coin pour trois élèves d'une classe de quatrième qui se trouvent assis face au mur sur ordre de l'enseignante. En situation d'exclusion symbolique, ils réussissent tout de même à se rendre présents par des manifestations corporelles d'opposition qui vont mobiliser l'attention de l'enseignante pendant tout le cours et par l'interpellation d'une autre élève. Cette dernière, comme les trois élèves punis, est descendante d'immigrants. Quand elle prend la parole pour participer au cours, l'un d'eux la parodie à plusieurs reprises et puis lui lance « Oh, tu veux une médaille ou quoi ?» Et puis il intime « Allez, arrête de faire ta belle. » À ces propos, l'enseignante ne réagit pas. Par contre, elle intervient fréquemment sur un ton impératif pour contrôler la posture des trois élèves punis. À la fin du cours, elle commente à mon intention « Ce sont des élèves particulièrement perturbateurs, ces trois-là. » Et vous avez vu comment ils se comportent avec les filles de leur propre culture? Vraiment, on peut imaginer comment ça doit être à la maison. Alors, tout d'abord, on voit apparaître une catégorisation qui est endogène à l'ordre scolaire, la catégorie de perturbateur. Alors, qui cela concerne-t-il? Les données concernant les sanctions délivrées dans cette classe sur la base des rapports d'incidents des trois derniers mois montrent que si la prévalence du genre est indéniable dans sa corrélation avec la sanction, comme Sylvie Hérel l'a déjà montré dans son travail « La fabrique des garçons », elle concerne ici les garçons minoritaires à raison du double des sanctions par rapport à celles attribuées au groupe majoritaire, alors que les garçons minoritaires dans la classe ne représentent qu'un tiers de l'effectif. Si la scène se présente selon un schéma somme toute assez classique du rapport de force entre professeur et élève, cette irrégularité statistique, couplée avec deux temps de l'interaction, indique qu'il n'est pas question ici seulement d'ordre scolaire, ou plus exactement que l'ordre scolaire ne peut s'envisager en dehors des rapports sociaux qui le constituent et auxquels il contribue. L'interpellation par un élève puni de la jeune fille qui participe au cours est sans conteste une interpellation sexiste. Cependant, elle n'est pas signalée comme telle en temps et lieu auprès de ses protagonistes par l'enseignante qui ne dit mot. Par contre, le commentaire réflexif sur la situation fait apparaître le filtre racialisant qu'elle mobilise, en référant le comportement de cet élève à l'ensemble d'une catégorie dont la frontière est déterminée ici par l'énoncé « leur propre culture ». Le pluriel englobant est un indice du déplacement de la description d'un comportement circonstancié à la représentation. Il ne s'agit plus seulement alors de l'attitude sexiste de cet élève, mais il s'agit de cet élève sexiste parce que turc, comme tous les turcs. L'évocation de la sphère familiale, à travers la formule « imaginez comment ça doit être à la maison », éloigne définitivement de la scène scolaire par la projection d'autres représentations. Ce procédé d'attribution causale a été maintes fois utilisé lors des entretiens de recherche au sein de ce collège comme facteur explicatif des attitudes sexistes. Il a alors un double effet. Premièrement, d'exproprier le sexisme, comme le dit Christine Delphi, hors de la sphère des majoritaires et par conséquent de l'invisibiliser dans cette dernière. Deuxièmement, c'est un processus de racialisation des groupes minoritaires par l'essentialisation d'un comportement qui est considéré comme une propriété intrinsèque du groupe qui relève de leur culture. Alors, la situation 2 se situe à un autre niveau puisqu'elle concerne les relations entre les enseignants, entre une école, le personnel d'une école et les parents lors d'un moment particulier, puisqu'il s'agit de la polémique sur les ABCD de l'égalité en 2014 et l'appel à la journée de retrait de l'école. Donc cette situation prend place dans une école élémentaire classée REP, dont tous les élèves sont des descendants de migrants en périphérie d'une grande ville de province. Je resitue le contexte. Donc, à l'initiative d'une alliance hétéroclite de groupes conservateurs, la diffusion de rumeurs pour appeler les parents à retirer leur enfant de l'école est le point d'orgue d'une campagne menée contre l'introduction de, je mets des guillemets, la théorie du genre à l'école. L'objet litigieux est un programme expérimental visant à développer l'esprit critique des élèves au regard des assignations de genre. Mais à l'école des Tilleuls, cet appel a une forte répercussion et 30% des élèves sont effectivement absents aujourd'hui. Une réunion publique à la demande des parents permet rapidement l'expression des questions et prises de position, initiant une série d'échanges qui font l'objet de la présente analyse. Le premier temps de déconstruction des rumeurs met au jour une faille dans les relations entre les parents et l'école qui ne peut être uniquement attribuée au phénomène de distorsion de la communication qui est propre au malentendu, lié au contexte, même si, comme l'exprime une mère d'élève, c'était trop mal fait la communication avec l'école et trop bien fait les rumeurs. Mais plus que de malentendus, il est ici question de mésentente, au sens développé par Rancière, soit l'émergence d'un litige. Car si le conflit manifeste en cette occasion consiste en un conflit d'attribution et de responsabilité entre les parents et l'école au sujet de l'éducation des enfants, de l'éducation à la sexualité en particulier, ces effets amènent à en déplacer le cadre d'analyse. Et je cite là l'observation a posteriori d'une mère d'élève. Il y a un truc qui m'est resté. À chaque fois qu'on a posé des questions à l'école, on nous a dit « arrêtez de suivre comme des moutons ». Il y avait un cafouillage, un mélange. On n'est pas dupe, il y avait des élections municipales, mais ce n'est pas cette affaire qui influence les gens. Si on donne notre avis, on n'a pas l'impression qu'on l'écoute. C'est comme si, quand on est voilé, on ne peut pas parler. C'est pas parce que je suis voilée que je ne peux pas être au courant. Il est question ici non pas des rôles respectifs des parents et des enseignants, mais de la capacité à être reconnu comme être parlant et pensant, de la capacité à faire entendre sa voix, ce qui justement définit le sujet démocratique. L'hypothèse que cette mère fait d'un lien entre l'assignation à parler dans le vide et le port du foulard est pertinente quand on la met en regard des propos des membres de l'institution scolaire qui évoquent le choc des cultures pour donner sens à la réaction des parents. Cette rhétorique du choc renvoie à la théorie du choc des civilisations qui continue à fonctionner comme grille de lecture malgré son désaveu scientifique, ce qui a pour effet d'invisibiliser le litige en discréditant d'emblée la parole de ces mères. C'est ce qui ressort des propos d'un inspecteur qui propose une explication au sujet de la JRE, donc la journée de retrait de l'école, et il dit « Vous avez des valeurs humanistes qui viennent impacter directement des valeurs culturelles. on peut dire culturelle entre guillemets. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça se, comment dirais-je, ça s'agrège plus aujourd'hui, ça s'enquiste plus. Mais bon, pour enseigner dans les quartiers depuis 30 ans, il y a toujours eu un point de dissension là-dessus. L'inspecteur, dans l'opposition qu'il crée entre les valeurs humanistes qui sont attribuées à l'école et les valeurs culturelles des quartiers, établit une frontière entre eux, dont la culture est particulière, et nous, dont l'humanisme est universel, à partir des rapports sociaux de sexe et de sexualité qui sont objets de la dissension. C'est une opposition qui trouve sa source dans une différence naturalisée. Enquister se réfère au corps, comme le confirme cet énoncé d'une enseignante. C'est aussi le choc des cultures. Ils ont un rapport au corps qui est complètement différent du nôtre. On le voit bien, la lecture du conflit à partir d'une perception racialisée et altérisante empêche toute confrontation, alors qu'une condition première pour que le débat puisse se tenir est le crédit accordé à la parole des interlocuteurs ou interlocutrices. Alors qu'à l'échelle de l'institution, le silence s'abat sur le genre, sous forme de dénégation ou d'occultation, jusqu'à la rentrée de cette année. Hein. Certaines enseignantes de l'école, ainsi que les intervenantes d'une association de médiation interculturelle, entrent en dialogue avec les mères des élèves au sujet de l'éducation à la sexualité. La controverse peut avoir lieu, parce que ces dernières sont reconnues comme des interlocutrices, à partir de la complexité et de la pluralité de leurs identifications, femmes, mères, musulmanes, françaises, plus ou moins pratiquantes, d'origine algérienne, marocaine, turque, etc., ce qui diffère de l'assignation monolithique imposée. Cette controverse porte sur un conflit de normes, l'âge adéquat, les supports pédagogiques et les représentations visuelles qui sont utilisées pour le cours, sur un conflit de valeurs, à savoir le statut de la sexualité et ses significations, sur un conflit de rôles, les responsabilités éducatives respectives de l'école et des parents. Cette question du partage des rôles éducatifs ne peut s'appréhender ici sans prendre en compte les enjeux spécifiques de transmission qui sont attachés à la position des femmes musulmanes dans le contexte post-colonial français. Les travaux de Nassera Guenif, déjà en 2005, montrent comment les descendantes d'immigrantes d'Afrique du Nord se trouvent être au cœur du, je cite, « combat douteux que se livrent les entrepreneurs de morale, tant minoritaires que majoritaires, pour la conformation aux normes de genre ». La sexualité au cœur de l'imbrication des rapports sociaux de sexe et de race est le site principal de l'injonction paradoxale à composer d'un côté avec l'émancipation comme preuve de l'intégration sociale et la fidélité coutumière comme preuve de l'intégration familiale. L'école, par son initiative si modeste et peu consistante soit-elle d'interrogation du rapport social de sexe, a adopté en 2013 le projet féministe de politisation du privé et susciter en cela la réaction des mères pour qui les questions de pudeur, d'intimité, d'expression et de contrôle de la sexualité, fortement chargées symboliquement et investies émotionnellement, sont l'objet de reconfigurations inédites. Ainsi, dans la controverse concernant l'enseignement sur la sexualité et l'égalité entre les femmes et les hommes à l'école, c'est en fait d'identité et de négociation de place dans un double système d'assignation dont il est question, ainsi que la volonté, et là je cite Rancière, de ceux qui n'ont pas le droit à être comptés comme êtres parlants dans la communauté politique, de s'y faire compter. Alors j'en viens à la troisième situation qui se déroule au Québec et qui décentre un peu le regard. Ma présence dans cet établissement du secondaire de 1600 élèves, caractérisé comme pluriethnique, est propice à la narration d'un conflit qui date de plusieurs années dont les effets sont encore agissants. De fait, les récits recueillis font référence à une série d'événements impliquant des élèves, puis de manière beaucoup moins circonstanciée, à un conflit dont les acteurs et les actrices sont deux groupes de professeurs, les Québécois et les non-Québécois, selon la dénomination qu'ils s'appliquent eux-mêmes, ainsi que la direction de l'école. Les élèves protagonistes du premier événement sont des élèves de 5e année, ils ont donc 17 ans, qui sont désignés soit comme arabes, soit comme jeunes musulmans d'un côté, et des Québécois catholiques ou des Québécois pure laine pour l'autre groupe. L'objet du conflit est la demande par des élèves musulmans de pouvoir prier à l'école. En l'absence de réponse à leur demande initiale, ceux-ci prient dans les couloirs. Des altercations ont lieu entre les deux groupes, car, je cite, « les Québécois avaient l'impression que les Arabes avaient des privilèges ». Des élèves non impliqués dans ces groupes demandent alors une médiation en signalant un processus de provocation mutuelle et d'escalade. Un comité de médiation est formé, qui est composé de 4 enseignants volontaires de nationalités et religions différentes. C'est selon leurs propos, hein, nationalités, religions différentes, qui proposent des rencontres aux leaders de chacun des groupes accompagnés qui propose des rencontres aux leaders de chacun des groupes, accompagnés de 3 personnes de leur choix. Des rencontres ont lieu d'abord avec chacune des parties, puis ensuite les rencontres sont communes. Le processus se déroule sur 6 mois et trouve un dénouement heureux, je cite toujours, « chacun a compris que personne n'avait raison », matérialisé par une fête à l'échelle de l'école dans laquelle il va y avoir un match de softball, un pique-nique et des photos de groupe des protagonistes du conflit qui me seront montrées. En parallèle, des démarches effectuées auprès de la commission scolaire, qui est l'employeur des enseignants et qui gère les écoles, conduisent à proposer dans l'école un espace de recueillement qui est ouvert à toutes les sensibilités religieuses le midi, sous condition de silence et de la présence d'un adulte. Ce local fonctionne quelques mois, puis est de moins en moins investi, pour finalement disparaître à la rentrée suivante. Selon quelques professeurs, le conflit a été le fait d'une cohorte d'élèves particulière cette année et s'expliquerait par la présence de leaders négatifs. Néanmoins, quelle que soit la motivation de la demande initiale, aspiration à une reconnaissance effective de statut ou instrumentalisation du religieux dans une rivalité intergroupe qui n'est pas sans s'articuler avec le genre d'ailleurs, car une majorité de garçons est concernée, les démarches engagées par l'école ont en toute probabilité produit une inflexion du rapport de pouvoir dans le périmètre des relations entre les élèves. L'utilisation par l'institution scolaire de la médiation et du renforcement d'un nous inclusif à l'échelle de l'école y a contribué. Il est à noter aussi la mobilisation des identités religieuses et ethniques en tant que moyen de régulation, sur la base de l'identification et non pas de l'assignation, ce qui change tout. J'ajoute à cela le fait que le dispositif législatif du Québec permet de réaliser ce qu'on appelle des accommodements raisonnables dans le cas de situations de tension de ce type. Alors la remémoration de ce conflit dans la vie de l'école est l'occasion d'en évoquer un autre plus actuel qui, selon les interlocuteurs et interlocutrices, trouve différents angles d'interprétation. Conflit entre les professeurs québécois et les non-québécois en raison de styles pédagogiques différents, c'est-à-dire un style plus consensuel pour les Québécois pour la gestion de classe et plus autoritaire pour les non-québécois. Un niveau d'exigence différent, plus élevé pour les non-québécois, moins élevé pour les Québécois. Un conflit généré par un changement de gouvernance de l'établissement qui adhère au principe de ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats, qui correspond au New Public Management, et qui remet en question privilèges et usages qui sont actifs à l'école. Conflit sur la base d'un traitement discriminatoire des professeurs non québécois dans la définition des tâches et l'affectation aux différentes filières de l'école, puisque différents propos me sont signalés par des enseignants minoritaires qui établissent le fait qu'ils se retrouvent avec les classes les plus chargées, avec les filières les moins estimées, avec des difficultés d'accès aux filières qui, elles, sont les plus réputées dans l'établissement. En fait, dans la variation des points de vue qui traduit la diversité des positions occupées par les acteurs et actrices de la communauté scolaire, se déplient les composantes de plusieurs rapports de pouvoir. L'ethnicité est mobilisée, soit par un processus d'assignation avec des interprétations essentialisantes, mais aussi par un processus d'identification et d'affiliation au groupe des minoritaires à travers les expressions « nous les néo-québécois » ou « nous les immigrants » dans un système d'organisation du travail en redéfinition et un contexte de rapport de force avec l'État qui concerne le milieu de l'éducation dans son ensemble. Mais faute de pouvoir en développer tous les enjeux, je terminerai par un verbatim qui évoque la matérialité des effets de la discrimination donc pour ces enseignants. On a toujours des surveillances en surplus, on n'a jamais tel poste, on a toujours plus d'élèves que les autres, on a les élèves les plus délinquants de l'école. Ce qu'on demande, c'est que ça soit redistribué en fait. Car si au Québec, les politiques de reconnaissance des groupes et des identités minoritaires sont légitimes et produisent des effets positifs, à défaut d'être articulées avec les principes de la justice distributive, elles pourraient n'être qu'illusoires. Voilà, je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup pour cette intervention. Timing parfait en plus. Je passe la parole à Sonia Plançon, qui est doctorante à l'Observatoire sociologique du changement à Sciences Po et à Northwestern University.
Merci. Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de capital culturel, donc une notion qu'on a beaucoup retrouvée dans la littérature sur l'éducation, dans des discussions sur son rôle, dans les inégalités scolaires de classe. En revanche, on l'a peu envisagé en lien avec la dimension ethno-raciale. Et ce que je propose ici, c'est d'explorer cette relation. Donc, si le capital culturel a un effet sur les résultats scolaires et qu'il est classant, on peut se demander si une dimension ethno-raciale existe aussi. Ou en d'autres termes, si l'effet du capital culturel est le même pour les minorités ethniques et raciales que pour la population majoritaire. Donc, cette question nous invite aussi à reconsidérer le capital culturel comme étant racialisé. Pour présenter un cours historique de l'utilisation de cette notion, depuis les travaux de Bourdieu et Passeron, on a eu différentes réinterprétations ou extensions de cette théorie, notamment d'Imadieu aux États-Unis qui, dès les années 80, propose un modèle de mobilité culturelle opposé à celui de la reproduction, suggérant que le capital culturel, plutôt que de bénéficier surtout aux classes dominantes, peut bénéficier à tous, et donc d'autant plus qu'on est issu de milieux défavorisés. Ensuite, il y a des approches plus flexibles qui s'intéressent plutôt au style de parentalité, comme les travaux dont Larro est la précurseuse. Et puis, au-delà de ces différences définitionnelles, on retrouve aussi des débats, évidemment, sur la pertinence du concept. Est-ce que ça fait vraiment effet ou pas? Et par quel mécanisme? Dont certains travaux qui évoquent l'idée que des mécanismes différents puissent coexister ou s'appliquer à différentes mesures du capital culturel. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, même si c'est pertinent par rapport à mon propos, puisque j'essaie de toucher à des questions de mécanismes potentiellement discriminatoires. Mais voilà, donc il y a débat là-dessus, mais je vais me lancer plutôt sur la dimension race et ethnicité de cette littérature-là. Elle est peu développée. On a eu en 99 un article de Larro et Horvat qui parlait de moments d'inclusion et d'exclusion à l'école, donc avec cette idée que le capital culturel c'est bien, mais encore faut-il avoir des occasions de le mettre à profit dans le cadre scolaire. Donc encore faut-il que la structure scolaire donne l'occasion de l'utiliser. Dans cet article-là, donc, elle se basait sur des observations d'interaction entre les équipes pédagogiques et des parents d'élèves de classe moyenne blanche et afro-américaine, et elle montrait que les parents d'élèves noirs voyaient leurs ressources culturelles moins récompensées, disons, et parfois réinterprétées par les enseignants, par exemple, de manière différente que ces mêmes ressources chez les parents d'élèves blancs. Donc, par exemple, on aurait, plutôt que de voir une tentative de négociation comme de la discussion, on allait interpréter cela chez les parents noirs comme une forme d'agressivité, par exemple. Donc, en 99, on a aussi, donc la même année, un article de Rossignol et Swart-Arnel, qui est cette fois-ci une analyse statistique qui s'attelle à tester cette théorie de la mobilité, ce modèle de la mobilité culturelle qui avait été largement accepté aux États-Unis pour des élèves afro-américains, donc partant du principe que ce modèle-là, il avait été vérifié sur des échantillons statistiques majoritairement blancs, et donc il suggère que finalement les rendements entre guillemets seraient moins bons pour des élèves noirs que pour des élèves blancs. Donc c'est un peu ce que j'essaie de faire ici aussi. Dans le contexte français, on a beaucoup plus récemment un article aussi qui avait un peu la même démarche, quoique le cadrage théorique était différent, et qui proposait donc l'article de Felouzi, Fouquet-Choprade et Charmillon en 2015, qui propose une explication aux différences de résultats, plutôt en termes de discontinuité culturelle secondaire, en tout cas ils en font l'hypothèse, pour faire le lien entre des explications structurelles et culturelles. Donc, c'est une référence aux théories développées par l'anthropologue américain John Ogbu, et qui ont été depuis largement discréditées aux États-Unis, d'abord parce qu'elles ne résistaient pas à l'épreuve d'une analyse empirique approfondie, et aussi pour leur tendance à blâmer les victimes. Donc, moi, ce que j'essaierai de faire ici, c'est d'avoir une approche qui ne cherche pas d'explications aux différences de résultats des minorités dans leur culture de façon intrinsèque, enfin, qu'elle soit supposément d'origine ou oppositionnelle, pour reprendre le terme de Ngbu, mais plutôt de voir si la culture peut tout de même désavantager certaines populations structurellement. Donc, envisager le capital culturel, finalement, le réexaminer comme étant racialisé. Il y a des travaux qui vont dans ce sens, surtout aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et je pense que c'est intéressant d'investir cette idée-là et surtout de l'importer dans le champ des études d'éducation. Donc, pour ce qui est de la méthode que j'utilise ici, je fais une analyse du 7e panel de l'ADEP et de l'enquête complémentaire loisirs qui a été peu exploitée. Qui consiste, mon analyse, en des régressions sur la note de contrôle continu en 3e. J'ai choisi de m'intéresser à la note de contrôle continu justement parce que c'est comme ça que je peux capter d'éventuels effets passant par ce que les auteurs que j'ai cités appelaient des processus micropolitiques, en tout cas quelque chose qui se passe dans les interactions entre élèves et enseignants ou équipes pédagogiques. Et donc mes variables d'intérêt sont d'une part des variables indiquant le statut minoritaire des élèves. Donc ça, j'ai voulu essayer plusieurs choses. J'ai codé ça de trois manières différentes. Une variable qui indique le background migratoire, le statut migratoire avec juste, enfin, les enfants d'un ou deux parents immigrés par rapport aux enfants de natifs. Puis un proxy pour les minorités visibles où là, j'ai regroupé les enfants de parents européens avec les enfants de parents natifs, et de l'autre côté, donc les enfants de parents immigrés de pays d'Asie ou d'Afrique, et aussi ceux venus des dom-toms. Donc évidemment, c'est un proxy, c'est discutable, mais c'est, je crois, la démarche qui avait été prise pour analyser l'enquête Théo, notamment. Et donc, mon idée ici, c'était de commencer avec une variable qui est fiable par rapport à ce qu'elle entend indiquer, hein, le statut migratoire, et puis ensuite de voir avec ce proxy, est-ce qu'on peut toucher à des discriminations d'ordre ethno-racial. Et puis, j'ai une variable par origine regroupée, par zone, pour voir si certains de ces effets, en fait, ont à voir avec certaines populations en particulier. Ensuite, pour ce qui est du capital culturel, donc j'ai une variable de niveau d'éducation parentale qu'on peut assimiler au capital culturel institutionnalisé, pour reprendre le cadrage de Bourdieu. Les livres, pour ce qui est de la dimension objectivée, donc les livres, c'est quelque chose dont on sait que c'est un très bon prédicteur des résultats scolaires. Et puis, pour la dimension incorporée, qui est celle qui fait le plus de débats, j'ai voulu essayer plusieurs choses. Donc, la lecture, dont on sait aussi que c'est un très bon indicateur, c'est celui qui fait le moins débat. La fréquence de visite au musée, pour avoir un indicateur un peu plus traditionnel de culture légitime. Et puis, j'ai aussi voulu prendre en compte certains travaux récents qui suggèrent que le capital culturel aurait pu évoluer avec les pratiques, évidemment, dans la société. Et qui suggère que, par exemple, regarder certains programmes télévisés, comme des documentaires, des choses éducatives, ont un effet positif sur les résultats. Aussi, ce que certains auteurs appellent la compétence digitale. Donc là, j'ai retenu un indicateur de l'utilisation d'Internet à des fins scolaires. Et donc, avec tout ça, je fais du coup j'ai fait des modèles avec des interactions entre ça et le statut minoritaire, pour voir si, en fait, ces variables-là ont un effet différent sur les résultats scolaires selon qu'on fait partie de la population majoritaire ou de la population minoritaire. Donc, pour ce qui est de mes résultats, donc, déjà après introduction des variables de contrôle que j'avais pour la classe sociale, la structure familiale, l'environnement scolaire, c'est-à-dire faire partie d'un réseau ambition-réussite, à l'époque, ou un établissement privé. Puis j'ai aussi un contrôle pour le genre. Donc on voit que les écarts de résultats entre populations majoritaires et minoritaires diminuent très fortement, comme on peut s'y attendre. Quand on ajoute le niveau de diplôme parental, puis les livres, les écarts disparaissent. À deux exceptions près, qui sont les enfants de parents d'origine africaine, sauf Maghreb, qui reste relativement désavantagé, et au contraire les enfants de parents d'origine asiatique, dont les résultats restent meilleurs deviennent meilleurs que ceux des enfants de natifs. Donc Une fois que j'ajoute ces interactions, je vais me concentrer sur les résultats les plus significatifs et les plus intéressants. Il y a quelque chose qui se passe avec le niveau d'éducation parentale qui semble avoir un moindre rendement pour les élèves d'origine immigrée, disons, que les élèves de les enfants de natifs français. Et quelque chose qui se passe aussi avec la lecture. Donc c'était une variable d'intensité des pratiques de lecture et dont on voit, c'est plus parlant si on regarde un graphique comme celui-ci, que les élèves de parents natifs ont la droite bleue, une augmentation assez forte, un point et demi entre ceux qui ne lisent jamais et ceux qui lisent tous les jours, donc un effet très fort de la lecture, et un effet un petit peu moindre pour ceux dont un ou deux parents sont immigrés. Donc ensuite, j'essaie la même chose avec ma variable de statut minoritaire, et je trouve quelque chose de similaire aussi, de plus prononcé encore, comme on peut le voir sur ce graphique-ci, qui montre la même tendance, mais avec des écarts qui se creusent encore plus. Donc c'est ça qui me suggère, même si je ne peux pas le vérifier ici, et que ça reste un proxy, qu'il y a quelque chose qui puisse être de l'ordre de l'ethno-racial, plus ou en tout cas indépendamment de l'ordre du statut migratoire. Et puis finalement, avec les variables détaillées d'origine, donc je vois qu'en fait cet effet-là, il est porté surtout par des personnes qui sont originaires du Maghreb et du reste de l'Afrique. Donc là, on a un peu la même tendance. Donc à gauche pour les élèves de parents maghrébins et à droite pour les enfants de parents du reste de l'Afrique. Et finalement, c'est aussi, cet effet d'interaction est aussi porté par les élèves d'origine asiatique. Donc là, ça recouvre une réalité un peu différente parce qu'ils ont des résultats qui sont globalement meilleurs pour des niveaux de lecture bas, mais qu'en fait, ce privilège-là qu'ont les enfants de parents asiatiques se perd un petit peu une fois qu'on regarde des pratiques de lecture un peu plus intensives. Voilà, donc. En conclusion, donc ces résultats suggèrent, à mon avis, l'existence d'une structure de récompense stratifiée, pour reprendre les termes des auteurs que j'ai cités au début, au moins concernant les bénéfices d'une pratique de lecture plus ou moins intensive. Et dans une certaine mesure, le niveau de diplôme des parents semble également engendrer de moindres rendements, si je puis dire, pour certains groupes. Dans ce travail, j'ai voulu voir si de telles inégalités existaient pour le système scolaire français. Et une fois qu'on a établi ça, il faudrait chercher quel mécanisme crée cette inégalité. Il y a des limites à ce type de démarche statistique. Et puis le fait qu'on n'a aucune information concernant les répertoires culturels de ces élèves. Mais ça doit nous inciter à réfléchir aux façons dont une structure de récompense racialement stratifiée peut opérer. Est-ce que c'est une question de discrimination indépendamment du capital culturel des élèves, par exemple? Est-ce que c'est une question de répertoires culturels qui sont valorisés de façon différente? Ou encore un processus discriminatoire qui rend inopérant le capital culturel des élèves minorisés, et de quelle façon? Et donc, pour affiner ça, il faudrait une enquête qualitative qui aiderait certainement à identifier ces mécanismes-là. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup pour vos deux interventions. Je vais maintenant passer la parole à la salle pour les questions.
Bonjour, merci beaucoup pour les deux interventions. J'avais une question pour vous, Sonia. Quand vous parlez des États-Unis, vous voulez dire quoi par les parents natifs? Parce que si je peux me permettre à dire « je viens des États-Unis », et donc, pour moi, à mon avis, à part les personnes qui sont vraiment les Américaines natifs, on est quand même tous les immigrés. Parce que moi-même, je sais que même si ça fait, je ne sais même pas combien de temps qu'on a, on vit là-bas, mais je considère que ma famille, c'est toujours les immigrés, techniquement, parce que, voilà, c'est un peu polémique comme sujet là-bas, mais je suis sûre que vous êtes au courant avec ça. Donc, sinon, j'avais... Enfin, l'autre... quand vous... donc, avec, je sais que ce n'est pas toujours le cas que les parents des immigrés vont apprendre leur langue aux enfants, parce que quelquefois, c'est mal vu. Quelquefois, les parents, ils ne veulent pas apprendre la langue aux enfants parce qu'ils veulent que les enfants s'intègrent et tout ça, entre guillemets. Mais si c'est le cas, est-ce qu'on ne peut pas considérer ce fait de parler une deuxième langue comme une moyenne de capital culturel? Voilà.
Peut-être qu'on va prendre une autre question.
Merci à toutes les deux. J'avais une question à Sonia, une demande de précision en fait, parce que ça m'a sans doute échappé. J'aimerais savoir ce que vous entendez par enfants d'immigrés. Donc ce sont des parents de nationalité étrangère, les enfants de migrants... Enfin, les enfants de deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération ne sont pas intégrés dans vos données, j'imagine. Mais ça, vous ne l'avez pas. Enfin, je ne l'ai pas entendu.
Oui. Donc, pour répondre déjà à ça, là, pour indiquer l'origine migratoire, j'ai donc déjà, clairement, je peux avoir que les secondes générations parce que j'ai pas d'indication au-delà des parents. Donc malheureusement, c'est clairement pas idéal. Et dans ma population, supposément d'origine native, il peut y avoir en fait des troisième génération et plus. Ce que j'ai retenu, c'est la nationalité des parents à la naissance. Je pense que c'est quand même plus proche de la définition d'immigrer selon l'INSEE, en tout cas d'être né à l'étranger, de nationalité étrangère, j'ai retenu quelque chose comme ça. Pour avoir l'origine en termes de nationalité des parents. Concernant le terme de natif, alors je sais pas si j'ai parlé de natif dans le contexte des études américaines que j'ai citées. Si je l'ai fait, je m'en excuse parce que c'était un abus de langage. Clairement non, c'était des études qui comparaient les populations noires et blanches, comme beaucoup d'études américaines qui parlent pas de natifs du tout. J'utilise le terme de natif dans le cas français, enfin c'est problématique par rapport à ce que je cherche à étudier, mais c'est que je suis obligée de parler en termes de nationalité à la naissance en fait. Je suis obligée d'utiliser ce terme-là en supposant que c'est des populations majoritairement blanches, mais en fait, comme je viens de dire, on perd déjà des générations. Donc ça, c'est une des limites très clairement d'utilisation de données statistiques, et je sais que c'est pas la précision de ces indicateurs est pas super, mais voilà. Et pour ce qui est de la transmission de la langue, oui, c'est une bonne question. En fait, j'ai pas eu le temps de citer certaines études aussi qui parlent de capital culturel sous de nouvelles formes, notamment cosmopolite, d'un certain cosmopolitanisme ou d'un plurilinguisme qui serait davantage valorisé. Dans ce cas-là, ça devrait normalement être un avantage pour les enfants d'immigrés si on leur a transmis leur langue. Clairement, il y a un avantage à être bilingue. Mais voilà, ça, c'est quelque chose à explorer plus aussi. Merci.
Okay, oui. Ouais.
Merci beaucoup à toutes les deux. Ma question, je l'adresse à Joël. Et je me demandais si, à travers le regard croisé que tu proposes entre le Québec et la France, est-ce que ces observations ethnographiques que tu as faites te permettent de finalement mettre en avant des différences et des points communs sur la question de la racialisation et comment elle se traduit dans les deux contextes?
Oui. Alors, je vais me borner à ce que j'ai développé là dans mon intervention, c'est-à-dire la question de mobiliser les catégories ethniques comme étant une possibilité de réfléchir la question du racisme au Québec. Ce fait, c'est possible, on peut nommer les choses et on peut nommer les situations à partir des positions qui sont occupées dans le rapport social par les uns et par les autres. C'est beaucoup plus compliqué en France, on le sait, en raison notamment de la loi qui empêche sur le plan statistique de recourir à ces catégories. Mais ce qui m'a intéressé surtout, c'est la manière dont cette dernière situation que je rapporte, dont les identités ont été mobilisées sur la base de l'identification et pas de l'assignation, c'est-à-dire à partir de la manière dont chacun va se situer comme point de départ ensuite à la possibilité du conflit, puisqu'il y avait un conflit. Mais on est parti de là. Hein, donc on n'a pas occulté le fait qu'effectivement, il y a quelque chose qui se joue autour d'un conflit qui est lié aux identités. Donc voilà, il y aurait d'autres choses à dire, mais par rapport à ce que je viens de dire, je vais me borner à ça. La question de nommer est très importante, me semble-t-il, et en France, enfin, je pense qu'il y a d'autres interventions qui iront dans ce sens, qui montreront à quel point il est compliqué de nommer, de décrire, d'avoir des outils qui permettent de dire ce qui est, de rendre visible ce réel. Mais alors, dans les pratiques, c'est par une invisibilisation en France. Hein, une invisibilisation... Bon, j'irai au-delà. Donc, comme j'étais dans une perspective ethnographique, je n'ai pas de données statistiques pour soutenir ce que je dis. C'est à partir des observations et des échanges que j'ai pu mener avec les personnes. Mais tant le sexisme que le racisme sont déniés. C'est-à-dire, l'école est réellement interprétée par ses acteurs et ses actrices comme étant le lieu de l'égalité. Très peu... parmi tous mes interlocuteurs et interlocutrices, étaient capables de faire une lecture critique des situations que je leur renvoyais. Je disais, voilà, ceci, cela s'est passé, quelle est votre lecture ? Les outils conceptuels sont absents pour pouvoir penser ce qui se passe à ce moment-là. Quels sont les enjeux ?
Il y a une autre question.
Moi, je voulais mettre en perspective ou en dialogue les deux présentations qui rentrent par des bouts très très différents, d'accord, et des méthodes très différentes. Il y a un débat depuis qui court autour de ces questions depuis au moins les années 70, avec des études quantitatives s'appuyant finalement sur les panels de l'ADEP, notamment depuis les années 90, auxquelles faisait référence Françoise Dorsery hier, et qui tente à montrer que, au fond, si on est sur la question de l'évaluation de niveau scolaire, sur la question des trajectoires, etc., grosso modo, la catégorie ethnique disparaît au profit de la catégorie sociale ou socio-professionnelle. Voilà. Et on a, dans le même temps, une histoire parallèle d'études empiriques locales menées à l'approche ethnographique, qui montre que les catégories ethniques, raciales sont présentes, actives, etc. Et donc on a une espèce de mystère comme ça, hein, qui fait comment une réalité qu'on atteste localement disparaît ou ne s'exprime pas à travers les statistiques nationales. Donc il y a tout un débat à deux échelles. Ce que je trouve intéressant dans les deux communications que vous faites, c'est que en fait, vous nous amenez deux éléments un petit peu nouveaux dans la manière de poser les choses. Pour Sonia, en faisant le lien avec les travaux d'Ogbu notamment, hein, et puis en allant ouvrir finalement une dimension de la catégorisation qui va pouvoir peut-être exprimer statistiquement un certain nombre de choses, hein, en déplacement finalement la manière de regarder les choses, et dans le travail de Joël, un travail notamment la combinaison, l'intersectionnalité, la mise en relation des différents rapports sociaux et la fluidité, la circulation qu'il y a entre eux qui amène finalement à exprimer peut-être autrement que simplement par le paradigme de la race pris de façon autonome. Voilà, je voulais souligner ça et du coup aussi vous interpeller par rapport à ça, c'est-à-dire sur vos propres positions peut-être à l'égard de ce problème historique, j'ai envie de dire, dans le champ des études sur la question ethnique à l'école. Ou est-ce que vous avez pris position sur ça ? Est-ce que vos travaux ont une intention par rapport à ça, etc.
Moi, pour l'instant, enfin, moi, je venais la sociologie de la culture avec l'idée de contribuer aussi à ce réexamen des questions de capital culturel. Via la dimension ethno-raciale aussi, donc je pensais que ça c'était important et effectivement de prendre position par rapport aux, au débat sur les théories de John Ogbu, etc., qui ont été un peu laissées derrière parce que culturalistes, et donc je pense que ce serait bien de s'intéresser à des questions de culture en évitant à tout prix cet écueil-là. Et donc voilà, en fait, je suis surtout curieuse maintenant de faire des études qualitatives qui permettent d'approfondir un petit peu ça, parce qu'on peut pas aller beaucoup plus loin statistiquement que ce que j'ai montré, à mon avis. Enfin, il y a certainement plus à faire, mais on est limité par les données. Et donc voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, ça m'intéresse de mettre ça en dialogue avec des études qualitatives sur les relations entre équipe pédagogique et élèves, etc. Et je serais tout à fait curieuse de savoir si des études ethnographiques qui ont été faites jusque maintenant ont permis de découvrir des mécanismes qui pourraient expliquer un peu ce que je viens de montrer statistiquement et que je pourrais relier à ça, puisque j'ai pas vu grand-chose qui me permette d'expliquer ça. Enfin, clairement, par rapport aux questions culturelles. Et donc, du coup, je me demande s'il y a des travaux qui, de manière incidente ou plus focalisée, s'intéressent à ça. Je pense que ce serait vraiment intéressant.
Alors, pour ma part, j'inscris ma démarche dans une sociologie des rapports sociaux qui postule que l'école, en tant qu'institution, n'est pas épargnée par les tensions qui existent entre majoritaires et minoritaires, et que l'école elle-même est prise dans une tension entre la reproduction de la société telle qu'elle est, donc de maintenir les rapports de pouvoir tels qu'ils existent, et l'émancipation, c'est-à-dire pouvoir les transformer. Donc, dans ce cadre-là, ce qui importe, c'est de pouvoir repérer les mouvements. Les mouvements, et du coup, on s'éloigne beaucoup de la logique statistique, puisque la statistique fige, hein, et de repérer des mouvements qui vont être propres à des contextes à chaque fois particuliers. Et voilà, j'ai un matériau assez abondant qui montre aussi comment les élèves peuvent instrumentaliser eux-mêmes à leur profit ces dimensions des rapports sociaux pour acquérir du pouvoir, pour, dans une situation donnée, se manifester comme étant ceux qui vont contrôler l'environnement. Donc on le voit un petit peu dans la première situation où les garçons qui sont punis, donc qui à ce moment-là sont humiliés. Il y a quand même aussi à prendre en compte cette considération, hein, la situation d'exclusion symbolique, c'est une situation d'humiliation, mais qui vont, par le biais d'une posture sexiste, essayer quelque part de réparer quelque chose qui est lésé dans leur estime d'eux-mêmes ou dans le pouvoir qu'ils exercent sur le groupe. Donc cette contextualisation me semble première, ce qui du coup complexifie considérablement la question, puisque si on prend en compte le fait que les rapports sociaux s'imbriquent et qu'ensuite on ajoute la dimension de variation qui est liée au contexte, comment en rendre compte d'une manière statistique? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Moi, je pense qu'il faut que les deux dynamiques continuent de cohabiter, de se croiser, de se confirmer mutuellement, de s'interpeller mutuellement. Mais oui, voilà.
Alors, une dernière question.
C'était une question de curiosité. J'aurais voulu savoir comment tu négociais ta présence dans les classes, en français en particulier.
Tout à fait. Alors, il faut être rusé. Bon, alors il se trouve que... Oui, d'une certaine manière. Alors, il se trouve que j'avais une légitimité, on va dire, semi-institutionnelle à être présente dans ces établissements parce que j'y étais intervenue comme formatrice auprès des équipes pédagogiques. Donc, qui m'accordait un statut en quelque sorte voilà, autour de la recherche, hein, et avec qui j'ai créé des liens. Quand je dis qu'il faut oser, c'est ça, c'est il faut se faire reconnaître comme une gentille et pas comme quelqu'un de menaçant. Hein. Du coup, l'entrée se faisait d'une manière très vague. Pourquoi j'étais là? Ben, c'était pour travailler sur l'égalité dans l'établissement. Voilà. D'une manière très très vague. Après les entretiens, j'utilisais beaucoup de situations que j'avais observées pour les ramener dans l'entretien. Et c'est à partir des commentaires et des relectures et des interprétations qui étaient faites que je travaillais. Moi, j'avais mon matériau. Voilà. J'ai été amenée aussi, dans plusieurs situations de classe, à voir ce qui pouvait se jouer. Alors justement, hein, cette question de l'interaction entre les enseignants et les élèves. Dans lesquels le rapport de pouvoir ne va pas toujours au profit des enseignants, hein, c'est ce que je disais. Et Oui, alors je dévie là, mais je reviens sur la question de l'entrée sur le terrain. Ce qui a été problématique, c'est la restitution des résultats. Hein, la restitution des résultats fait que je ne peux plus mettre les pieds, évidemment, dans l'établissement où j'ai travaillé, quand bien même il y avait une volonté tout à fait sincère de la part des enseignants de considérer les résultats de ce travail. Et de... Oui, ils m'ont demandé de les restituer. J'ai passé une demi-journée avec eux pour rendre compte. Et... Mais il y a eu, dans cet établissement, celui que je cite ici, il y a eu un événement qui a échappé au cadre. C'est que le chef d'établissement avait proposé à une journaliste d'être présente lors de cette demi-journée. Il y a eu ensuite un article de restitution journalistique qui déformait les propos, qui prenait quelques éléments, les sortant du contexte, etc. Ce qui a généré ensuite des effets en cascade qui sont allés jusqu'à l'inspection académique, etc. Donc oui, avec une menace pour le chef d'établissement. En tout cas, lui s'est senti menacé par la situation. Voilà, pour cet établissement. Pour d'autres... Ce sont beaucoup à travers des liens d'interconnaissance, en fait, avec des personnes en particulier, que l'entrée est possible. Oui. Mais bon, c'est ça. Je ne pense de toute façon pas qu'il est possible d'avoir une position neutre. Donc il s'agit d'être identifié et repéré aussi par rapport à la démarche qu'on souhaite faire. Et bon, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est une démarche engagée, hein. De volonté de transformation des rapports sociaux. Donc, je ne le cache pas non plus quand j'arrive dans l'établissement, mais je pense que ce sont les liens d'interconnaissance qui permettent ensuite qu'il y ait une certaine forme de confiance qui s'établit. Voilà.
Merci beaucoup. Bah, du coup, on va laisser la place à Oscar Quintero pour sa conférence.